à tout le monde, où tout le monde peut venir planter, peut venir cueillir, manger. Donc c'est vraiment du lieu commun. Et puis créer un espace de biodiversité où donc on a planté des arbres, des arbustes, etc. Donc on a initié le projet qui est autour du lac. En partenariat, la mairie nous a autorisé à nous laisser une parcelle en fait où il y avait déjà quelques arbres fruitiers, pardon. Et donc là, on a amendé tout ça. Et là, l'idée, c'est de faire vivre ce lieu maintenant. C'est-à-dire que non seulement, évidemment, il faut en prendre soin, il faut le développer, mais aussi, il faut créer justement de la convivialité et du commun autour. Donc, comment on fait?
Une buvette encore?
Une buvette. Mais là, l'idée, là, prochainement, le 7 juin, ça sera un repas qui sera là, sur la forêt gourmande, à l'extérieur, un repas tous ensemble. Le 26 septembre, on va créer une grande après-midi autour de la forêt gourmande, mais d'un spectacle. C'est un spectacle avec des artistes qui s'appelle Enfin, qui va avoir lieu, buvette, etc., atelier autour de plein de thématiques autour du climat. Donc c'est faire vivre ce lieu, créer aussi ce qu'on appelle des apéros arrosage pendant l'été, plutôt d'arroser la terre et puis d'arroser nos gosiers.
Le rosé.
Voilà. Ça c'est pour créer de la convivialité. Puis voilà, le faire vivre en fait ce lieu. Et puis après, on a ce qu'on appelle les apéros climat. Alors vous voyez, il y a beaucoup apéros dans nos trucs, mais bon, c'est l'idée de la convivialité. Ça revenait tout le temps quand on sait faire la fête. En fait, c'est créer de la joie aussi, parce que sinon, enfin, encore une fois, pour pas déprimer. Donc c'est les apéros climat. Ça, c'est un partenariat avec la librairie Buissonnière, cette femme formidable librairie qu'on a la chance d'avoir sur le territoire à Saint-Matin, qui est une librairie indépendante. Et donc on fait les apéros climat c'est tous les 2 mois à peu près. L'idée, c'est d'avoir une thématique et de discuter en fait, d'échanger pour aussi que les gens...
D'autres projets, d'autres alternatives percent aussi. C'est en parlant que des choses arrivent et se dessinent.
Oui, pour qu'effectivement il y ait des nouveaux projets. Puis il y a des gens qui ont besoin de parler sur certaines choses. Et puis c'est aussi l'idée de parler des projets qu'on a pour faire venir d'autres mondes. Enfin bon, voilà. Donc c'est super, les apéros climat. C'est très sympa.
Alors ce qui m'a attiré aussi dans votre association, c'est que j'ai vu que vous aviez créé des liens finalement. À la fois, vous fonctionnait pas simplement en asso, tu l'avais dit dès le départ, il y avait cette idée d'amener d'autres citoyens vers les choses. On l'a vu, vous avez créé des liens avec les politiques et j'aimerais que tu m'expliques comment vous essayez d'influer sur ces politiques, parce que ça permet de faire des changements parfois plus des grands pas, alors que quand on est simple citoyen sans subvention, c'est parfois plus difficile d'avancer, même si ça rend les choses très robustes. Vous avez créé aussi un réseau d'associations. Comment vous fonctionnez avec d'autres associations, d'autres formation autour de vous?
Alors oui, on s'est mis en lien. Donc l'idée, c'était de fabriquer des partenariats aussi, de se mettre en lien avec d'autres assos donc locales, que ça soit, j'en sais rien, moi, l'école de musique, Sam Africa, qui est un festival de musique où dans lequel on porte la gestion des déchets, enfin on aide sur la gestion des déchets, la MAP donc qui existe sur Lombèze, un collectif d'un groupement d'achat, un groupement d'intérêt économique de maraîchers bio sur le Savès, qui s'est constitué en GIE et voilà. Nous, avec lesquels on travaille, les Mawajit qui sont une association d'agronomes sur Saint-Élix, et l'université Jean Jaurès qui fait un travail sur l'eau, qui a pris comme exemple en fait le territoire du Savès pour faire toute une étude sur l'eau jusqu'en 2050, enfin une prévision en 2050. Puis après, donc effectivement, il y a le travail. L'idée, c'est d'influer sur comme on peut sur les politiques publiques. Et donc, pour ce faire, on a en 2020 initié ces municipales-là une liste de propositions en fait de Savès Climat. Donc, on avait fait un gros travail d'écriture tous ensemble, très intéressant, sur qu'est-ce qu'on pouvait proposer en fait de concret à mettre en place sur le territoire du Savès pour prendre en compte ce bouleversement climatique donc au niveau des communes. Donc,
alors ça, c'est un exercice assez alors courant, pas tant que ça, mais les candidats, alors quelles que soient d'ailleurs les échéances électorales, c'est-à-dire que les députés, lors des législatives, en général, tout un tas d'associations demandent aux candidats de se positionner sur leur terrain. Vous avez choisi de le faire sur les municipales, donc.
Bah oui, parce que les municipales, en fait, c'est notre levier d'action. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous disais au début, l'idée, c'est de travailler à échelle humaine, nous, sur notre territoire, et d'être présents sur notre territoire. Donc, sur notre territoire, ben, effectivement, la collectivité locale qui a le pouvoir, ce sont les municipales et la communauté de communes. Et donc l'idée, c'est voilà, de leur montrer, de leur donner des idées. Ils en ont évidemment, faut l'espérer, mais nous, en fait, de se positionner très clairement pour donner des propositions très concrètes de mesures à prendre sur le territoire.
Rapidement, qu'est-ce que vous leur avez donné comme idée ?
Par exemple, d'être actif donc sur l'idée d'artificialiser les sols, donc de diminuer concrètement en fait l'artificialisation des sols, de créer des îlots de fraîcheur et favoriser la pousse des arbres, préserver la biodiversité des zones naturelles, avoir une agriculture respectueuse de l'environnement, je dis ça un peu en vrac, mais de diminuer drastiquement les déchets avec des mesures très concrètes, de garantir la continuité du flux des rivières, de restaurer tous les bords des rivières, de replanter des haies, enfin bon, etc., etc., etc. Bon, il y en avait, je ne sais plus combien, mais voilà, donc l'idée, c'est de leur apporter et d'essayer d'influer. Donc bon, ça ne marche pas super super, mais en tout cas, c'est d'être présent, mais quand même, l'air de rien, en 2020, il y a une commune quand même qui s'était engagée sur plusieurs choses et qui a mis en place quand même plusieurs choses sur ces propositions-là, donc on s'est senti quand même un peu utile.
Très bien. Un petit mot de la fin pour éventuellement des gens qui auraient envie de créer quelque chose comme ça, un conseil, et ce sera la phrase de la fin.
Un conseil, je pense que s'associer, être une association, un collectif de citoyens, on peut faire beaucoup ensemble, et les énergies, la motivation, travailler en réseau, créer des liens et partager tout ça, c'est ça qui nous sauvera.
Merci beaucoup Sophie, et je conseille vraiment aux auditeurs d'aller voir ce site de Savès Climat qui donne des idées et qui donne aussi de l'espoir quand on veut agir autour de soi. Merci beaucoup Sophie, au revoir.
Merci Nicolas.
L'ours et la carotte est écoutable sur internet. À la semaine prochaine.
Quand on pense au Japon, on imagine souvent les temples silencieux, les cerisiers en fleurs et une culture aussi fascinante que mystérieuse. Un pays parfois perçu comme lointain, presque irréel, nourri de clichés et de fantasmes. Mais vivre au Japon, est-ce réellement comme dans les films ou les mangas ? Céline y vit depuis plusieurs années. À travers son regard, le pays du soleil levant se dévoile autrement. Plus nuancé, plus humain, parfois surprenant, et souvent loin des idées reçues.
Je ne pourrais pas vraiment résumer le Japon en un mot, parce qu'en plus, c'est vraiment, du nord au sud, c'est complètement différent. C'est vraiment un pays à part dans toute l'Asie. Je pense que c'est un pays où il faut aller. Il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés, et moi, ça me rend dingue. Faites les deux, trois choses à faire, et puis après, laissez-vous le temps de vous perdre, d'explorer. Je m'appelle Céline, je me trouve à Tokyo et ça fait bientôt 7 ans que j'y suis. Le pays, il est tout en longueur en fait, aussi bien sur les paysages que sur les gens, sur la culture. C'est vraiment pour moi un pays qui est assez à part en Asie, pour plein de raisons d'ailleurs, aussi bien historiques que culturelles, que plein de choses. Quand les gens, je sais, ils ont cette image du Japon hyper homogène, alors qu'en fait, dans le nord du Japon, les gens ressemblent bien plus aux Inuits, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est le peuple autochtone de Hokkaido, qui sont les Ainu, qui ressemblent vraiment à des Esquimaux, plus qu'à des Japonais. Et puis à Okinawa, dans le sud, les gens, ils sont hyper bronzés. Ils sont vraiment méga bronzés. Ils ont aussi un faciès un peu différent. Alors, les paysages sont très variés, en fait. Du nord à Hokkaido, il y a une île tout au nord, une grosse île qui ressemble pour moi au Canada. Donc ça, c'est vraiment mon île coup de cœur. Donc, c'est vraiment de la nature, c'est très sauvage. Il fait très, très froid l'hiver. Et puis après, tout au sud, on a les îles de Okinawa qui ressemblent aux Maldives. Vraiment, c'est toute une plein d'îles où il fait, on peut se baigner vraiment toute l'année. C'est magnifique. Les plages sont vraiment paradisiaques. On a les Alpes japonaises aussi. On a plein de paysages et surtout plein d'îles, en fait, un peu partout. Justement, ce qui est bien de Tokyo, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes comme ça au monde. On peut vivre en pleine ville, donc dans une méga, dans une grosse mégapole, mais on peut être facilement à 1h30, aller au ski, faire du ski, ou alors être à la mer, à la plage. Donc c'est vraiment, d'un point de vue géographique, Tokyo, c'est vraiment sympa. Donc quand on va à Tokyo, on a envie d'aller voir les deux temples principaux, les quartiers comme Shinjuku ou Shibuya, par exemple. Et après avoir fait tout ça, vraiment, je conseillerais aux gens de s'éloigner vraiment de quelques rues. Il suffit d'aller quelques rues derrière ces endroits bondés de touristes et de découvrir vraiment, de se laisser aller dans les petites ruelles et on découvre toujours quelque chose. On a la majorité du territoire qui est vraiment dépeuplé. En plus, le Japon, en ce moment, il a vraiment une chute de la natalité. Il y a toutes les campagnes et toutes les îles. En fait, il n'y a vraiment pas grand monde. Il y a beaucoup moins de touristes au Japon, même si depuis le Covid et la réouverture, il y a eu tout d'un coup une grosse vague et les gens, les Japonais, ont peut-être cette impression de surtourisme. En fait, pour moi, je trouve que les gens sont tous au même endroit, dans les mêmes villes et dans les mêmes lieux. Donc, je ne dirais pas que le Japon a un problème de sourd-tourisme. Le Japon a un problème de tourisme qui se concentre, en fait, aux mêmes endroits, dans les mêmes lieux. C'est aussi la faute, je pense, du gouvernement qui gère très, très mal ça. Le problème pourrait être facilement réglé avec des mesures qui pourraient être facilement mises en place pour que tout le monde arrête de faire cette golden route là de Tokyo jusqu'à Kyoto en passant par Hiroshima, etc. Je pense que le gouvernement n'a pas géré très bien cette réouverture après le Covid. Donc le Japon est resté fermé pendant 2 ans. Donc nous, par exemple, on n'a pas pu sortir. Et puis en fait, à la réouverture, il y a eu tous les gens qui sont venus, qui n'ont pas pu venir pendant les 2 ans, qui avaient déjà planifié leur voyage. Et puis en même temps, il y a cette espèce de... Alors le marketing, ils sont très forts parce qu'effectivement, on entend parler du Japon partout. Moi, quand je vais en France assez régulièrement, il y a des Japan Expo partout, il y a des expos, il y a un énorme marketing qui est fait autour du Japon. Il y a des restaurants qui s'ouvrent tous les jours à Paris, etc. Donc ça, pour promouvoir le Japon à l'étranger, ils sont très bons. Après, je pense qu'ils ont eu du mal à... et qu'ils ont toujours du mal à promouvoir les autres provinces que les provinces principales que tout le monde connaît, comme Tokyo, Kyoto et les grosses villes que les gens voient effectivement sur les réseaux sociaux. Une très mauvaise décision pour moi qui a été prise juste après le Covid, c'est que le gouvernement a décidé d'augmenter le JR Pass. Donc le JR, c'est la compagnie de train japonaise qui couvre du coup tout le Japon et pendant des années il y a eu un JR Pass qui était pour tous les touristes, qui était un prix vraiment accessible et qui permettait aux gens sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'avoir un pass, de le payer à un prix fixe, mais par contre de pouvoir utiliser autant de trains et de Shinkansen qui est le TGV donc local et d'aller vraiment partout. C'était open bar, on pouvait prendre n'importe quel train, on pouvait en prendre même 10 par jour, et en payant donc ce pass. Ils l'ont augmenté de 70%. Du coup, ce qui fait que maintenant de prendre ce pass, il faut vraiment réfléchir et faire les bons calculs. Est-ce que ça vaut la peine de le prendre ou pas? Donc, si les gens viennent 10 jours, 2 semaines et qu'ils font 3 trajets en Shinkansen sur les villes principales, ben, le pass n'est plus du tout rentable en fait. Donc du coup, bah, les gens ne le prennent plus forcément, et vu qu'ils ne le prennent plus, bah, du coup, restent sur les villes principales et ne vont plus faire les villes principales et après pouvoir aller partout explorer le Japon, les campagnes. Le Japon aussi a accueilli quand même des événements internationaux comme la Coupe du Monde de rugby, comme les Jeux Olympiques. Donc, il y a eu quand même aussi des efforts qui ont été faits. Ils ont quand même aussi eu ces événements internationaux, en fait. Donc, oui, je pense qu'il y a quand même une volonté du gouvernement d'accueillir des gens, d'accueillir des événements internationaux et des touristes. Après, je pense qu'il y a aussi un conflit avec les Japonais eux-mêmes qui n'ont peut-être pas été un peu préparés. C'était un peu too much, too fast. Et puis, donc, comme je disais au début, c'est aussi une île, c'est aussi un pays qui a été fermé pendant 200 ans. Donc, il y a quand même une mentalité d'insulaire. C'est quand même un pays, pour moi, assez nationaliste. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas été préparés aussi, mais même un peu psychologiquement. Et ils ont ce fort sentiment, là en ce moment, il y a eu, on en a beaucoup parlé, je sais même en France, les élections, il y a le parti d'extrême droite qui a gagné une quinzaine de sièges. Donc ça, on en parle beaucoup, cette espèce de backlash un petit peu, de relents un peu xénophobes. Est-ce que les Japonais sont racistes ou pas? Donc voilà, donc en ce moment, il y a une ambiance un petit peu spéciale, mais pour moi, sincèrement, je pense que les gens sont aussi excédés dans les lieux très bondés, très touristiques, comme par exemple à Kyoto, où les gens... Kyoto, c'est une toute petite ville par rapport à Tokyo. Et les locaux, bah en fait, c'est les mêmes problèmes qu'il y a en France, dans les lieux comme à Montmartre, comme à Barcelone. Les locaux ne peuvent plus accéder à leur resto, à leur bus. Donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi ce sentiment des locaux. Après, moi, je vais toujours, on essaye d'aller vraiment dans les campagnes, et là, il n'y a personne, vraiment, littéralement personne. Et les gens sont adorables et nous accueillent vraiment les bras grands, grands ouverts. Je pense que les conditions de travail sont très dures et puis sont vraiment aux antipodes de ce que nous, enfin, en tout cas comme Français, on peut avoir l'habitude de connaître. Les conditions de travail sont quand même assez particulières. On n'est pas sur 5 semaines, sur voilà. Donc il y a quand même beaucoup de jours fériés. Il y en a plus qu'en France, je crois. Mais il y a généralement 10 jours, 12 jours de vacances. Il faut prendre un jour par-ci, un jour par-là. Ce qui fait qu'ils ont, ils n'ont pas 10 jours, 2 semaines pour partir ou pour... voilà, c'est souvent des longs week-ends ou c'est quelques jours à des périodes spécifiques comme là au mois d'août et on va avoir les grandes vacances, la période où toutes les entreprises généralement ferment pour Obon et puis au Nouvel An. En fait, on a un contrôle médical annuel qui est généralement payé par les entreprises. Donc, on y a droit toutes les années. Donc, un bilan complet, alors avec après un minimum. Et puis après, un peu à la carte, on peut rajouter tout ce qu'on veut d'ailleurs. Aussi bien des scanners, des IRM, des examens hyper poussés. Et donc, moi, à chaque fois que je fais cet examen, à chaque fois, les résultats sont que je suis en surpoids. Sachant que je fais genre un 38-40 en France, qui est à peu près dans la norme, je pense. Et au Japon, voilà, il faut faire du 34-36. Donc, ça, c'est la norme. Donc ça a été, par exemple, une grosse claque. Et en fait, je le vois aussi au quotidien pour, par exemple, acheter des vêtements. Donc, quand on va chez Uniqlo, par exemple, qui est la marque de prêt-à-porter assez classique, où il y a un magasin dans tous les malls ici, Uniqlo ou, par exemple, Muji, moi, je prends souvent du XL. Donc quand on fait du 38-40, on s'habille en XL ici. Et puis bon, souvent moi je suis un peu plus grande que la moyenne, donc souvent les pantalons sont trop courts et les manches sont trop courtes. Mais voilà, donc il y a une grosse effectivement pression sociale sur les femmes et sur leur poids. En fait, c'est une société quand même très sexiste et très patriarcale. Le Japon est classé quand même 118e mondial sur, je ne sais plus, il y a 148 pays sur l'égalité homme-femme. On mange bien équilibré, ça je ne sais pas vraiment, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de viande, il y a beaucoup de choses frites quand même. C'est qu'en fait, les gens ne mangent pas beaucoup. Les portions, en fait. Moi, ce que j'ai remarqué souvent en invitant des Japonais et des Japonaises à la maison à manger, c'est que souvent, enfin pour moi, j'ai l'impression qu'ils picorent. Et les portions, elles sont vraiment petites. Rarement on va chez les Japonais. Nous, les seuls Japonais chez qui on est allé manger ou même dormir sont vraiment des gens qui ont vécu en France ou qui sont mariés ou des couples mixtes, en fait. Donc voilà, tous les Japonais qui n'étaient pas des amis de longue date, qu'on a invités à la maison, donc on n'a jamais été invités chez eux en retour. Donc voilà, au début, effectivement, ça peut surprendre, mais maintenant, ça ne me choque plus du tout, parce qu'en fait, vraiment, c'est pas du tout dans la culture, en fait. Et le Japon a un calendrier qui est basé sur 72 saisons, avec effectivement à chaque fois sa fleur, sa météo, à chaque fois il y a plein de spécificités. Et en fait, le Japon vit vraiment avec les saisons. Et ça, c'est un truc qui est maintenant auquel je suis hyper sensible. Et c'est-à-dire qu'on voit des Japonais qui vont être en contemplation pendant 10 minutes devant une fleur de cerisier. Et juste la regarder, en fait. Et pareil pour l'automne avec les momiji qui sont les érables japonais. Et donc, observer les végétaux, les fleurs. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose. Par exemple, un temple, souvent, il va avoir, ou un sanctuaire, il va avoir son cerisier, son érable, ses hortensias. Donc, il y a la saison des hortensias. Après, c'est la saison des. Juste avant, il y a les azalées. Juste avant, il y a les sakuras. Donc, en fait, toute l'année est ponctuée par une saison, par une fleur. Et donc ça, vraiment, c'est ce que vraiment le Japon m'a appris, c'est de regarder. Ce que j'aime bien dans le calendrier des fêtes au Japon, c'est qu'il y a très peu de fêtes religieuses. C'est souvent des fêtes qui sont liées. Alors, il y a par exemple l'anniversaire de l'empereur. Donc ça, oui, ça, c'est une fête qui d'ailleurs change en fonction de l'empereur. C'est jamais, donc du coup, une date qui est fixé. Mais par exemple, il y a la fête de la mer, de l'océan, la fête de la montagne. Donc, c'est souvent aussi des fêtes qui sont liées à la nature. Le contraste, le Japon qui vit en 2050, donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ce Japon hyper moderne et tout. Enfin, pour moi, ça, c'est aussi un autre cliché. Donc, évidemment, Tokyo, c'est moderne. Par contre, on est tous aux fax machines. Il y a beaucoup de choses où c'est vraiment encore beaucoup la paperasserie, etc. Donc pour moi, le Japon vivait dans les années 80, avait 20 ans d'avance sur le monde entier, en point de vue technologie, etc. Et puis maintenant, je dirais qu'en 2025, ils ont vraiment des années de retard sur plein de domaines. Il y a tout ce côté pratique. Donc ça, c'est vraiment le pays du konbini, qui est le convenience store, c'est-à-dire que tout doit être facile, disponible, tout le temps, H24. Donc ça, on a l'impression effectivement de vivre un peu dans un espèce de confort, je veux dire matériel, hein, par contre, c'est-à-dire des distributeurs partout, des supérettes qui sont ouvertes H24, 7 jours sur 7. Et les catastrophes naturelles, au début, j'étais pas très préoccupée par ça, j'avoue. Et puis, on a eu, moi, en 7 ans, j'ai eu 2-3 grosses secousses. Maintenant, plus ça va, plus c'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu. Il y a des volcans partout, sur 2 failles en plus, sismiques, donc ça bouge tout le temps quelque part. Il y a toujours un volcan quelque part en éruption, ça tremble. Donc, entre les tsunamis, les volcans, les tremblements de terre, etc. Donc, effectivement, les Japonais, ils ont, depuis des siècles, ils sont habitués à vivre, entre guillemets, avec ça. Le Japon est sans doute le pays le mieux préparé. Après, je pense qu'il faut faire aussi un peu comme les Japonais. Il y a un proverbe, quelque chose qu'ils disent toujours, c'est « shogunai », ça veut dire « on n'y peut rien ». Voilà, c'est comme ça, il faut accepter. J'ai créé un atelier de couture chez moi et j'ai décidé de soutenir une association depuis une trentaine d'années qui est à moitié aux Philippines et à moitié en France, qui lutte contre les violences sexuelles sur les enfants. Donc ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Et donc, j'ai décidé de faire des objets couture, en fait, avec des tissus japonais. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis après, progressivement, j'ai commencé aussi à vendre des objets japonais. Depuis maintenant 7 ans, j'ai pu reverser à peu près 44 000 euros à l'association. Vous pouvez retrouver donc tous ces produits, accessoires que je vends donc au profit de l'association. Donc 100% des profits sont reversés à l'association Caméléon. Et donc mon site, ça s'appelle Couture for Caméléon. Donc c'est couture4caméléon.com. J'ai fait pour la première fois une expo photo à Paris tout le mois de juin. C'était sur les Redzumi, c'est les tatouages traditionnels japonais, Asakusa au Sansoji. Les Yakuza, donc qui est la mafia japonaise, sort pendant ce week-end et donc s'expose avec tous leurs tatouages. Et donc voilà, c'est une occasion un peu en or de photographier et surtout de les approcher. Enfin, c'est un thème hyper particulier parce qu'au Japon, donc, on ne prononce même pas le mot Yakuza. En fait, c'est vraiment tabou. Enfin, c'est clairement des mafieux, des criminels. Mais moi, j'ai pas cette appréhension, en fait. Et donc, du coup, vraiment, j'ai pu les approcher pendant ce festival. Ils sont hyper sympas.
Just a little, let your poor heart bleed a little, but baby, that's the glory of love. Cry a little, sigh just a little, let your cloud roll by, baby, a little, but baby, that's the glory of love. Long as there are just the two of us, have the world in its charm. Long as there's just the two of us, we hold each other's arm. Baby, now win just a little, lose just a little. Sometime had the blues a little, but baby, that's the glory of love. Thank you.
there just the two of us, how that world and its charm. Long as there just the two of us, we hold each other's arm. Baby, now when just a little, lose just a little, sometime how the blues a little bit.